Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ah Vincent, dans les choses qu'on surveille, on fait notre bilan des cas au Québec. On peut être tenté de le comparer avec celui de l'Ontario. Parce qu'on disait que l'Ontario avait un peu d'avance, pas d'avance dans le sens positif, mais d'avance sur nous, sur les variants. Là.
Oui, et effectivement, on voit une bonne différence. On s'est vraiment suivi un peu dans les dernières semaines, le Québec et l'Ontario. Là, il y a quand même une différence. Là, au Québec, c'est près de 800 cas, 798 cas. C'est pas une baisse là, aujourd'hui. Non, non. Plus 10 personnes, moins 9 personnes hospitalisées par contre, moins 4 aux soins intensifs. 25 000 prélèvements, 18 200 doses de vaccins, un petit peu
nouveau,
plus haut.
Nouveau record.
Ouais, nouveau record. On avait atteint 17 000, alors c'est une première. Par région, quelques régions où on était à un cas, qu'il y en a un petit peu plus, là, mais c'est de petits nombres quand même. Capitale-Nationale, 39, Montréal, 345. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais évidemment, je vous parlais de l'Ontario. L'Ontario, aujourd'hui, remonté de cas au-dessus de 1000. On est à 1250 nouveaux cas. Alors, c'est plus élevé. On parle de la métropole, évidemment, Toronto, une partie des cas qui est là, Peel, York.
Alors, c'est le Grand Toronto, tout ça.
Tout à fait. Alors, Grand Toronto, mais 1250 cas, c'est pas bon, là. Alors,
on espère
que ce soit un pic, là, qui soit peut-être anecdotique ou peut-être dû à certains calculs, mais on va espérer que ça prenne pas de tendance
vers
le haut.
Quand c'est un peu annoncé que ça risque d'arriver, puis que ça...
Ça
donne les premiers signes. C'est certain qu'on s'en inquiète un peu plus. Ben voilà, on en parlait avec Paul Larocque et on a tous les chiffres, mais des vaccins qui arrivent plus rapidement que prévu.
Ouais, et c'est quand même là vraiment des bonnes nouvelles parce qu'on a vécu l'inverse, puis ça a fait assez mal.
Mais c'est pas mal de vaccins.
C'est beaucoup de vaccins. C'était des bonnes nouvelles aujourd'hui, entre autres Pfizer, parce que Pfizer ça a été plus difficile dans les derniers mois, on le sait. Ben là, ils se récupèrent en quelque sorte parce que pour le trimestre actuel, janvier-mars, on sait que Justin Trudeau, il l'avait répété alors que on commençait à douter là. Il y avait 6 millions de vaccins avant la fin mars. Là, on avait atteint 6 500 000 avec l'arrivée d'AstraZeneca.
On avait 500 000 de plus, c'est
Là, on sera à carrément 8 millions parce qu'on va additionner à ça 1,5 million de vaccins Pfizer qui étaient attendus au troisième trimestre, mais qu'on va devancer.
Qui risque quand même d'être donné au troisième trimestre parce que dans ma compréhension ils vont arriver ouais, fin mars là mais quand même ça veut dire que dès le mois d'avril, dès les premiers jours d'avril, on va être en mode deuxième trimestre de l'année.
Ça, on n'attendra pas à juin parce que là, quand tu passes à l'autre trimestre, ça peut être fin juin.
Ça veut dire que dès le début avril, on va pouvoir ouvrir la machine.
Là-dessus, on a 2 millions de Moderna aussi pour janvier et mars. Alors au total, c'est 8 millions. On passe pour ce qui est de avril à juin, on monte déjà pas mal parce que là, Pfizer, c'est 12,8 millions. Encore là, on va devancer au moins 2 millions de vaccins qui vont arriver d'avance. On avait prévu presque 11 millions. On va être à près de 13 pour Pfizer. S'ajoute à ça 12 millions de Moderna, 1,5 millions d'AstraZeneca, 1,5 millions du COVAX AstraZeneca, donc qui arrive avec le programme COVAX, en juillet-septembre. En fait, et ça pour le...
Mais là, je t'arrête. Avec ce que tu viens de dire,
oui,
au 30 juin... Et avec la règle du 4 mois pour la deuxième dose, si toutes ces doses-là sont données, si la machine... Au 30 juin, on va être proche. Moyennant que c'est pas 100% de la population qui se fait vacciner, là, que c'est 75-80% de la population qui se fait vacciner, à mon avis, au 30 juin, on va être proche que tout le monde ait sa première dose.
Effectivement, parce que un des questionnements, c'est l'AstraZeneca, là, on a 20 millions de doses qui vont arriver d'ici le 30 septembre. Donc ça, c'est flou, là. Ça arrive quand? Johnson & Johnson...
Je pense qu'ils arriveront pas toutes d'une livraison. Ça veut dire qu'on va probablement avoir certaines livraisons en mai, en juin.
C'est ça. Mais est-ce que ça peut commencer en juillet aussi, là? Johnson & Johnson, évidemment, qui a été approuvé aujourd'hui une seule dose. On aimerait bien qu'il arrive plus tôt que tard. 10 millions de doses d'ici le 30 septembre. On dit qu'on devrait avoir quand même des doses en avril et juin, mais on n'a pas dit le nombre. Alors ça pourrait changer aussi la donne. Alors là, ce qu'on parle, c'est des dizaines de millions de doses qui vont se mettre à arriver. Et le débat, et vous en parliez, t'en parlais avec Paul Larocque, l'administration, et là, on se lance dans une opération où faudra les administrer. Et est-ce qu'on sera capable de livrer la marchandise? Ça, c'est quand même un des vrais défis du gouvernement, parce que la pandémie, c'est arrivé par surprise. La campagne de vaccination...
On en parle depuis novembre. Là.
On en parle depuis des mois. Un bon test de gestion.
Paul Larocque a tout à fait raison. Là. L'image de Christian Dubé, quand il rentrait pas de vaccin de la part de Justin Trudeau, elle était très, très bonne. Tu sais, notre machine de vaccination, c'est une Ferrari, puis il manque juste du gaz. L'image était excellente. Mais...
Là, t'es plein de gaz.
C'est ça. Une fois que, pas juste t'es plein de gaz, puis là, il y en a dans la réserve, puis t'es dans le réservoir à côté, et là, t'es plus capable de rouler parce que ta Ferrari, elle marche pas, elle était pas en ordre. Là, t'as l'air fou.
Est-ce que tu y crois au projet? L'ultime désir, c'est d'atteindre 1 million de doses par semaine, là.
Au Québec. Écoute, on nous disait, il y a pas longtemps, que 250 000 doses, c'était la limite. Bon, mais là, par contre, on additionne. Moi, je pense que pour arriver à ça, il faut aussi les pharmacies à la clé.
Ben, on dit que le 250 000, on est capable de le pousser à 400 000.
Ouais,
350, 400 000. Les pharmaciens, 200 000. Les entreprises.
Un autre 200 000. Mettons 350 plus 200 plus 200, là, ça ferait 750. À mon avis, une semaine à 750 000, là. Rendu au dimanche soir, on aurait le droit de se féliciter, là.
Oui. Mais ça serait... Christian Dubé peut se prendre un gin tonic, là, le vendredi soir.
Si on réussit ça, là, je vais applaudir. Mais, par contre, ce matin, Diane Lamarre me disait qu'on va être surpris de certains pharmaciens vraiment débrouillards, qui ont des bonnes équipes, qui ont plusieurs pharmaciens, puis des jeunes pharmaciens qui sont prêts à faire des heures. Il y a des pharmaciens présentement qui se réservent, là, pas loin, mettons, de leur pharmacie, ceux qui sont dans un village, il y a un sous-sol d'église, une place, on commence à réserver pour se faire des lieux de vaccination, parce que il y a bien des pharmacies qui ont une salle de vaccination pour des voyageurs ou deux salles de vaccination, des petites salles de rendez-vous, mais pas assez. Mais ça me dit qu'il y a des pharmaciens qui prennent ça au sérieux, là. Ils veulent contribuer, puis...
Mais ça, et les entreprises. Je trouve quand même, je pense que les entreprises ont dit qu'il y en avait déjà 350.
Ouais, mais là, Vincent, les entreprises, c'est jamais aussi efficace que le gouvernement.
Mais justement, parce que j'ai l'impression, moi, être patron d'entreprise, écoute, t'as tout avantage d'organiser une belle opération rapidement. T'as des locaux de libre. Plusieurs entreprises ont des étages vides au complet. Des locaux de libre. Tu peux piger
pour l'entreprise. Pour l'entreprise, d'abord, tu règles le cas de tes employés.
Tu vaccines tes employés.
Deux, socialement, ça passe très bien. Là. C'est comme une contribution sociale qui va être applaudie par tous.
Il n'y a que des avantages, même s'il y a des coûts approximatifs. Là.
Non, mais dans les multinationales, les coûts d'une opération de vaccination, là, tu comprends, c'est...
Ben, surtout, on s'entend pour un employé. Dire à mon employeur se bat pour me vacciner et on peut pousser la vaccination à dire les employés et leurs familles, dans certains cas, disent même des membres de la communauté. Si certaines grandes entreprises se mettent à rouler à fond, ben, il y a quand même une bonne quantité de doses qui peut aller être cherchée là. Il y a des grandes tours à bureaux vides, de grandes entreprises, de gens qui sont en télétravail. On pourrait faire rouler la machine.
Mais 1 million, j'y crois pas. Mais tu sais, je veux dire, à 750 000, c'est du monde, là. 750 000, mettons qu'au Québec, mettons qu'on a 7 millions de personnes à vacciner. Ça prend pas en moins de 10 000. Mais là, déjà, il y en a déjà plusieurs de vaccinés. Mais ça serait en 6-7 semaines, tu finirais le job, là.
Ben, c'est pour ça que, effectivement, même si on est entre 500 000 et 1 million de doses par semaine, on va s'en sortir, là.
Ah, on voit,
c'est
on voit
quand
la lumière,
même encourageant. C'est encourageant.
Ça traîne depuis le début, puis c'est un sujet sur lequel je suis intervenu souvent parce que j'ai eu des commentaires du public. Et là, Christian Dubé a senti le besoin d'envoyer un avis au ministère pour les proches aidants, là, les gens qui accompagneraient ou les conjoints qui n'ont pas 85 ans, par exemple, mais qui accompagneraient une personne de 85 ans.
Ouais, c'est une question que tu posais, que t'as posée depuis le jour 1, là.
Mais c'est parce que le jour 1, en plus, sur le site Internet,
ça marchait pas.
Mais c'était même pas prévu pour ça. Puis c'est pas encore très clair sur le site Internet. Moi, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui disent, oh, on peut pas inscrire notre conjoint, c'est pas faisable. Puis
Et je comprends que des gens qui téléphonent aussi n'ont pas toujours des réponses claires sur qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit.
À date, ce qu'on m'a dit, c'est qu'au téléphone, c'était très clair. On disait exactement le contraire du ministre.
C'est non.
C'est non, vous ne serez pas vacciné. Vous n'avez pas pris un rendez-vous distinct. Vous ne serez pas vacciné avec... Vous venez accompagner une personne de 85 ans, vous n'avez pas 85 ans, vous ne serez pas vacciné. Donc, c'est ce qu'on disait au téléphone.
Bon, et là, on a obtenu copie d'une note envoyée au réseau là, par l'équipe de vaccination. Donc, le message dit ceci. Là, personne proche aidante ou accompagnatrice par ailleurs. À l'ouverture de la prise de rendez-vous le 25 février dernier, les personnes proches aidantes ou accompagnatrices de 70 ans et plus n'ont pas toutes réussi à prendre leur rendez-vous. Dans ce contexte, ces personnes n'ayant pas réussi à prendre un rendez-vous entre le 25 février et le 28 février, inclusivement, seront acceptées lors de la vaccination de leurs proches. De plus, il peut arriver que la personne proche aidante ou accompagnatrice obtienne un rendez-vous à un moment différent du rendez-vous de son proche. On comprend que des fois, tout est booké. Cette situation sera corrigée sous peu. Il est cependant important de procéder à la vaccination de cette personne de 70 ans et plus au même moment que la personne qu'elle accompagne. Et ce, peu importe la date de son rendez-vous.
Ça, c'est clair. Ça, c'est une directive claire. Alors, je suppose qu'elle est rendue partout maintenant, là, dans le réseau, les téléphonistes, etc.
Alors, il y a une mécanique, là.
L'emblème du 11 mars qui a été dévoilé, 11 mars étant la date de commémoration là, des plus de 10 000 personnes décédées de la COVID au Québec.
Oui, l'emblème qui devrait rester, parce que le 11 mars va rester marquant pour l'histoire du Québec et du monde. Évidemment, c'est cette journée l'an dernier, en 2020, où l'OMS déclarait une situation de pandémie mondiale et qu'on va utiliser comme journée. Sûr que nous, au Québec, c'était dans les journées qui ont suivi, le 12, 13, 14 mars, où tout s'est recommencé à fermer et qui ont été marquants pour tout le monde. Alors, le 11 mars sera la journée de commémoration. D'ailleurs, on demande aux Québécois de faire une minute de silence à 13h le 11 mars prochain. On dévoilait aujourd'hui l'emblème de cette journée. C'est un logo assez simple où c'est écrit 11 mars à l'intérieur d'une rose blanche. Alors, un symbole qui représente, dit-on, la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux personnes qui ont succombé au virus. L'unité du peuple québécois également. Le drapeau du Québec, on sait, va être en berne à l'Assemblée nationale décisive. 6h le matin du 11. On demande également de souligner le dévouement des travailleurs de la santé. Alors oui, il y a les personnes qui sont décédées, mais il y a ceux qui ont combattu la COVID. Il y aura des représentants d'ailleurs des familles endeuillées, du réseau de la santé, des services prioritaires qui vont pouvoir se recueillir là, près d'un mémorial temporaire. Et il y aura un discours du premier ministre François Legault en après-midi. Certaines prestations virtuelles. Je sais pas si tu as vu le logo, je sais pas ce que tu en penses en même temps.
Ouais, c'est ça.
C'est simple, ouais. Simple, mais...
C'était une semaine, c'est le 11 mars qu'on commémore à cause de la pandémie. C'était le 18 mars qu'on avait eu le premier décès au Québec. Une madame à Lavaltrie, à la résidence. C'était l'une des premières éclosions dans une résidence pour aînés, une résidence privée pour aînés.
On s'en souvient parce qu'on était dans la série de points de presse là, tous les jours et c'était le premier où on annonçait plus des cas, mais un décès.
Un premier décès. On a su un peu plus sur le prix des doses.
Oui, et quand même, parce que on nous donne pas là au gouvernement fédéral exactement comment on a payé, à quel prix on a payé les doses de vaccins, mais on peut le calculer sur les données sur le commerce international des marchandises qui a été publié par Statistique Canada. Le gouvernement donc refuse de donner ces chiffres-là, mais on indiquait dans les chiffres que Ottawa a dépensé 24 millions de dollars en janvier pour des doses anti-COVID et qu'on en a acheté 695 000. Le calcul est quand même simple. Ça donne $34.50 pour chacune des doses. Ce qui est cher, mais pas hors de prix. On n'a pas eu de rabais. Mais, entre autres, les États-Unis, on donne quelques comparaisons, là. En décembre, on parlait, il y avait un prix qui est sorti, là, pour une partie des doses. C'était $37.70. C'était plus que les Américains, plus que les Européens. Les États-Unis qui avaient...
En même temps, les Américains, il faut mettre dans l'équation ou l'opération Warp Speed, là. Ils ont mis des milliards pour le développement du vaccin.
Tout à fait.
On peut compter ça comme un acompte.
Tu as tout à fait raison. Les États-Unis qui avaient déboursé pour les vaccins de Pfizer le $24.80. Par contre, pour celle de Moderna, c'est $35. Alors là, on est plus dans les prix. On a payé $34.50. Alors, les Américains sont quand même prêts à payer jusqu'à $35 pour Moderna. C'est des données qui avaient été publiées par Washington et le magazine Forbes. Alors, c'est le prix moyen. Écoute, mais on n'a pas le choix. Payer cette facture-là, je pense que c'est un investissement intéressant.
Écoute, pour le peu que je connais de la business, là, quand t'es dans la situation du Canada où M. Trudeau a été depuis décembre pour crier pour des vaccins, Tu peux pas faire le fin finot sur le prix, là.
Non. Ben écoute, on a payé des masques, probablement 10$ le masque, là. On paye des vaccins 34.
C'est pas si pire.
Bon, c'est correct. On va s'endurer.
Dans tous les scénarios, je pense ça que M. Trudeau pouvait dire, ouais, c'est cher un peu.
On va passer par-dessus celle-là. On va attendre, vous allez voir.
Ouais. Tu sais, des fois que t'es pas dans cette position-là. Et l'Organisation mondiale de la santé qui demande au monde entier de ne pas relâcher la garde.
Ouais, parce qu'on veut à tout prix ne pas perdre les efforts reliés aux vaccins et l'espoir créé par les vaccins en relâchant les efforts mis en garde qui s'est fait donc aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. On parle entre autres du système COVAX également, qui est créé, on sait, pour distribuer plus équitablement les vaccins anti-COVID qui ont permis de commencer finalement à immuniser des gens dans des pays qui n'avaient pas de vaccins. On sait qu'on s'est beaucoup plaint là, du côté de l'OMS et de COVAX, à dire les entreprises là, nous avaient promis des doses, ça n'arrive pas, ça commence. Environ 20 millions de doses ont pu être envoyées dans 20 pays. La semaine prochaine, ça monte. Et on aura donc 31 pays qui vont s'ajouter pour pouvoir recevoir des vaccins COVAX. On parle d'un progrès très encourageant, mais le volume des doses est trop faible au dire de l'OMS. C'est 2%, là, on dit 2 à 3% de la population des pays. Là. Alors, faudra dans les prochains mois activer, parce qu'évidemment, on demande à ce qu'il faut vacciner ces pays-là.
On va dire la vérité, là. Quand les États-Unis, le Royaume-Uni, des grands pays comme ça vont avoir vacciné leur population,
ouais, ils vont
te les inonder, COVAX. Là. Ils vont, ça, tu comprends? C'est triste à dire, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Là. Je veux dire, les pays riches vaccinent leur population. Je pense qu'après, ils vont être partie prenante à dire, regarde, envoie-ci des vaccins.
Surtout que ça peut leur revenir en pleine face. Si on est trop chiche, on va se retrouver avec des variants. Donc, on risque d'être inondé de vaccins dans quelques mois, et ce sera pour le mieux.